peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme. Jean-Yves, c'est le cheval, bien sûr. Une émission proposée par toi, donc Jean-Yves Benet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, je suppose que tu descends de cheval, donc tu es quand même en forme pour 25 minutes d'émission ?
Oui, absolument. Et puis je voudrais faire un sacré coucou, moi, à toute notre équipe de la chevalerie qui est actuellement au Mexique, que représentait la route du sel et qui a porté les vœux aux Mexicains, des chevaliers de Paille Brune et de la route du sel.
D'accord, voilà. Eh bien, écoute, c'est très, très bien. Même s'ils ne nous entendent pas, ton aura fait que ça franchit l'Atlantique. Il doit bien en recevoir un petit quelque chose.
Alors, on va prendre pensée qui compte.
C'est la pensée qui compte. Tu as tout à fait raison. Alors, on va prendre le cheval au mot. Et aujourd'hui, le mot harnais, tout simplement, le harnais. Alors, on utilise tous des expressions comme endosser le harnais, blanchir sous le harnais.
Le
harnachement, ou encore s'échauffer dans son harnais. Alors spontanément, la première image qui vient à l'esprit, évidemment, quand on parle du harnais, est celle d'un cheval prêt à être attelé et monté, ou monté. En réalité...
Prêt à partir, voilà.
Prêt si parat. En réalité, ce sens de cheval harnaché est relativement récent. Il apparaît dans notre langue au début du XIIIe siècle, donc c'est pas si vieux que ça. Et à l'origine, harnais est un emprunt à l'ancien scandinave Ernest. Alors, c'est pas le prénom Ernest, mais enfin, ça se prononce Ernest. Et désigne dans cette langue les provisions et les bagages d'une armée. Et de ce sens premier, harnais évolue vers celui d'équipement complet d'un homme d'armes, que l'italien reprendra par la suite sous la forme arnese, l'espagnol arnes, l'anglais arnes, ou encore l'allemand, alors j'ai pas l'accent allemand, harnisch. Pardon pour les germanophones.
Mais là, c'est l'équipement du cheval.
Alors, les spécialistes de l'étymologie estiment même que c'est très vraisemblablement en raison du prestige de la chevalerie française que le mot a été ainsi diffusé dans les différentes langues d'Europe. Voilà.
Alors, mais la chevalerie française de l'étymologie, le cheval était roi.
Et le cheval était roi. Alors, d'équipement d'homme d'armes, le harnais désigne également vers cette même époque un vêtement luxueux et lourd, d'où l'expression « suer sous le harnais », parce que c'était chaud, on avait un gros truc sur le dos et on avait chaud.
Donc on trimait sous le harnais.
On trimait sous le harnais. Et enfin, harnais donne le mot harnacheur, évidemment, donc qui est le sellier spécialisé autrefois dans la fabrication des harnais, ou encore au début du XVIIe siècle, le palefrenier qui était chargé de harnacher les chevaux. On appelait ça un harnacheur. Voilà. Donc il y avait différentes fonctions.
Avec harnaqueur.
Ah ben, un harnacheur pouvait être arnaqueur, ça pouvait arriver. Et je pense que tu, dans ta longue vie professionnelle, Jean-Yves, tu as peut-être rencontré des harnacheurs qui étaient un peu arnaqueurs.
Pas mal.
Alors actuellement, en dehors des chevaux, le harnais désigne aussi une sorte de baudrier, donc actuellement, auquel les alpinistes s'attachent pour assurer leur sécurité. C'est-à-dire, en fait, c'est cette espèce de ceinture qu'ils ont autour du corps, hein, et auquel ils mettent un mousqueton accroché à la corde, et en cas de chute, etc., ça les retient quand même un petit peu.
Oui, dans le parachutisme aussi, on parle du harnais aussi.
Dans le parachutisme, toi, tu as fait du parachutisme.
Tout à fait,
toi,
oui.
Moi, ça me fout la pétoche.
Le harnais, c'était la suspente qui était rattachée au suspente et qui te tenait.
Voilà, qui tenait, voilà, d'accord. Bon, t'as jamais eu peur en parachute, toi?
C'est une épreuve de crin et virilité.
Oui,
mais... c'est une victoire sur soi. Aussi également, il faut savoir s'imposer des choses.
Oui, mais quand ça rate, on tombe plus haut que d'un cheval.
Ouais,
quand même.
On a un ventral, on a deux parachutes, on a un dorsal et un ventral. Alors donc, on a toujours le ventral pour.
Ce qui est extraordinaire avec Jean-Yves Bonnet, mais ça, nos auditeurs ont dû le remarquer, c'est son optimisme. J'ai l'impression que même si le parachute s'ouvre pas, même si le ventral s'ouvre pas, il trouvera toujours une solution là.
Mais là, il vaut mieux qu'il s'ouvre quand même.
Il vaut mieux qu'il s'ouvre. Alors, on va reprendre notre petite histoire livre. La semaine dernière, tu t'en souviens, Jean-Yves, nous avions parlé de l'homme de Néandertal. Et aujourd'hui, ben, on va faire quand même un bond vers le présent. Et nous sommes en 35 000, ce qui est quand même lointain à partir pour maintenant. Mais enfin, nous sommes en 35 000 avant notre ère. Une partie de l'Europe est toujours recouverte de glaciers. Le climat est sec, froid, mais ensoleillé. C'est un environnement de vastes steppes sur lesquelles pousse une herbe maigre. Peu de grandes forêts en effet, mais plutôt des paysages de boqueteaux composés de bouleaux, de pins et de genévriers qui parsèment de place en place le territoire. Alors c'est un territoire maigre et pourtant peuplé d'une incroyable variété d'animaux, des prédateurs comme l'ours, le lion, la panthère, le léopard, la hyène, le loup et le renard. Donc, par chez toi, Jean-Yves, en allant chercher les champignons, tu pouvais tomber sur un lion, par exemple.
Ah, formidable, ou une j'aurais bien aimé, moi.
Il est fou. Entre le parachute qui s'ouvre pas et le lion. Ah bah oui, maintenant, d'accord. Mais entre plus rien et un lion, mais enfin bon.
Pour moi, c'était peuplé, c'était vivant.
Voilà. Là, ça devait être vivant aussi pour les hommes de cette époque-là. Hein. Bon. Alors, des herbivores également. Il y avait les prédateurs, mais des herbivores également, comme le rhinocéros, l'aineux, le mammouth, l'auroch, le bison, le grand cerf mégacéros, c'est-à-dire qu'il y avait des grands bois, le renne, évidemment, le caribou, le bouquetin, des variétés d'antilopes, et bien sûr, le cheval.
Oui, mais le cheval qui n'était pas sa taille normale, et c'était un petit cheval encore.
C'était un petit cheval, tu as raison, oui. Maintenant, je pense qu'on l'appellerait un poney, hein, certainement plus petit que le cheval de Camargue.
Il avait toutes les qualités du poney,
d'ailleurs. Tout à fait. Et alors, vivant au milieu de ce bestiaire, qui était fantastique, enfin, on peut dire, hein, c'était extraordinaire, des hommes autrefois appelés hommes de Cro-Magnon, un terme que les préhistoriens ont remplacé aujourd'hui par celui d'homme moderne, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens. En fait, il est génétiquement cet homme semblable à nous qui sommes leurs descendants directs. C'est-à-dire on croiserait une équipe d'hommes modernes habillés avec nos habits. Oui, là on remarquerait, on dirait c'est une équipe folklorique, mais enfin bon, leur aspect est tout à fait comme le nôtre.
Semblable.
Voilà. Voilà, nous en sommes en fait les descendants directs et nous connaissons bien nos lointains ancêtres. De nombreux sites archéologiques ont été trouvés et fouillés, bien sûr, apportant aux spécialistes une collection impressionnante de vestiges, tels que des outils, des armes, des parures, des traces de campement aussi, des foyers, des ateliers de taille ou encore des sépultures. Puisqu'ils enterraient eux aussi leurs morts.
Alors, mais ce sont eux les premiers qui ont commencé à monter à cheval. Jusqu'à maintenant, encore, on ne montait pas à cheval.
Alors là, on n'en sait rien. Non, on n'a pas de preuve qu'ils montaient à cheval. Peut-être certains s'y sont hasardés. Les chevaux accrus, comme maintenant les artistes qui montent leurs chevaux comme ça sans rien, mais enfin ça franchement on sait pas là vraiment
les
on sait pas.
Les personnes qui montaient à cheval à cette époque-là passaient pour des demi-dieux parce que c'était absolument pas ordinaire de voir un homme sur un cheval, le cheval on le chassait plutôt.
Oui, c'est vrai, mais enfin c'est quand même très très ancien et c'est ce qu'on verra, ils ont représenté beaucoup de choses, avec le cheval ils représentent des scènes de chasse, hein, mais jamais des scènes d'équitation. Donc s'ils l'avaient fait, je pense qu'ils l'auraient représenté aussi.
Ah, l'équitation, voilà. Ça devait être quelque chose d'équitation primitive quand même, c'était tout nu sur le cheval ou pratiquement, et sans étier.
Oui, mais enfin je crois que surtout ils montaient pas à cheval, ou s'ils montaient à cheval c'était par inadvertance si je puis dire. Hein. Je pense que non, ils les chassaient en fait, c'était un gibier. Et alors, donc là aussi, il ne faut pas penser que les hommes préhistoriques vivaient dans des grottes. Ils allaient dans des grottes pour certaines choses, mais ils ne vivaient pas dans des grottes. Ils vivaient sous des tentes, en réalité. Alors, des tentes qui pouvaient être dressées à l'entrée des grottes.
Des tentes avec des peaux de mammouth, alors
Des peaux, plutôt des peaux de rennes, des peaux d'animaux comme
ça. Le mammouth,
ça
couvre une bonne surface, quand même.
Oui, c'est vrai, ça, voilà. Non, par contre, ils faisaient des abris dont l'armature était faite en défense de mammouth. Hein. Voilà,
mais comme ils se chauffaient avec les défenses de mammouth.
Et ils brûlaient des os et des défenses pour se chauffer. Exactement, Jean-Yves. Il est impressionnant, Jean-Yves. Il est impressionnant. Hein. Et donc on a trouvé donc toutes ces traces de campements, outils, etc., comme nous venons de dire. Et par-dessus tout, des abris sous roche et des grottes ornées de peintures et de gravures d'une extraordinaire qualité esthétique, dont la plus emblématique est celle de Lascaux, qui a été découverte en 1940. Et c'est une révélation qui change du tout au tout l'image que l'on se faisait alors des hommes de la préhistoire, considérés jusque-là comme des êtres à l'intelligence frustre, forcément violents, instinctifs et dépourvus de spiritualité. Alors 1940, hein, Ironie de cette découverte majeure, alors que le monde est dans la seconde année de la Seconde Guerre mondiale, avec son cortège de massacres, de déportations, de villes et de villages rasés, de violences jamais égalées. Et on pourrait se demander, avec un peu d'ironie, comment Homo sapiens sapiens, l'homme sage, le soi-disant fruste, le mâle dégrossi, aurait pensé de ses lointains descendants, c'est-à-dire nous. Eux aussi, donc nous, des sapiens sapiens, a priori, des hommes sages, pourrait l'imaginer, et qui vivons 35 millénaires après lui. Ben, est-ce qu'on avait été, en 40, aussi sages que ça?
Oui, donc, mais là, disons qu'ils avaient une sagesse primitive, c'est-à-dire
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne trouve pas des os humains avec des traces de mort violente, ni pointe de flèche, ni pointe de saguet, ni coup de casse-tête. On ne trouve pas ça chez les hommes modernes de cette époque-là. Donc ils n'étaient pas combatifs alors. Ben voilà, disons qu'ils se battaient pas entre eux en tout cas. Voilà. Alors que ces mêmes pointes de saguet, pointe de flèche, etc., on les trouve dans des os d'animaux. Donc ils savaient s'en servir. Voilà. Or, on commencera à retrouver des squelettes d'êtres humains plus tard, effectivement, à la fin du néolithique, ce qu'on appelle le néolithique, où effectivement, où les hommes commencent à devenir cultivateurs et à devenir sédentaires, être moins nomades. Et là, on va trouver effectivement des gens qui ont été manifestement tués par des armes. Ce qu'on ne trouve pas chez ceux qu'on appelait les Cro-Magnons. Voilà.
Bon. Ils étaient plutôt pacifiques alors.
Oui, en tout cas, ils se battaient pas entre eux. Voilà. Bon. C'était des petits groupes aussi. Donc, s'ils avaient commencé à s'exterminer, notre aventure, on serait pas là à CFM Radio pour la raconter. Mais alors, si tu le veux bien, Jean-Yves, on va s'accorder maintenant une pause musicale avec Compay Sengudo et la fameuse Cantaora Martirio. Voilà. Es mejor vivir así.
Que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Yo no sé qué me está pasando. Que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Es mejor vivir así, localmente enamorado. Este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti y no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti. Cuando un día pedí mi corazón, enamorado. Este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz.
Vers Noël 1994, trois explorateurs spéléologues menés par Jean-Marie Chauvet sont à la recherche de grottes inexplorées dans la vallée de l'Ardèche aux environs de Pont d'Arc, cette magnifique arche naturelle qui enjambe donc la rivière Ardèche. Alors ils finissent par découvrir sous un amas de rochers éboulés une cavité inconnue qui s'avère être une grotte d'environ 400 mètres de long et formée de plusieurs salles. Et là, c'est la stupéfaction et l'émerveillement. Sur les parois s'étalent des séries de panneaux peints qui représentent notamment de nombreux chevaux. Jean-Marie Chauvet signale immédiatement, évidemment, cette découverte. Et cette découverte, on lui donnera son nom, c'est-à-dire on l'appelle la grotte Chauvet. Alors, avertis, les autorités archéologiques françaises prennent sans attendre une série de mesures dont la première est d'interdire l'entrée de la grotte à quiconque. Il s'agit en effet pour les scientifiques d'éviter de perturber l'atmosphère intérieure de la grotte qui a été maintenue intacte depuis plus de 20 000 ans grâce à cet éboulement providentiel de rochers. Les rochers ont fermé la porte en quart et c'est l'atmosphère d'il y a 20 000 ans. Extrêmement intéressant au niveau scientifique. Et une équipe scientifique est constituée sous la direction de l'archéologue Jean Clotte qui travaillera pendant 5 années.
C'est là déjà on a découvert des chevaux qui ressemblaient à des chevaux camargues. Et puisqu'on dit que ces chevaux descendent de la préhistoire, mais les Espagnols se réclament aussi de ça.
Alors la grotte Chauvet est de grande taille. Les spécialistes estiment qu'une centaine de personnes auraient pu s'y tenir ensemble. Mais bon, il n'y avait jamais 100 personnes ensemble. Si la première salle qui donne sur une vaste entrée est éclairée par la lumière du jour, le reste de la grotte est plongé dans l'obscurité totale. Et pourtant, c'est dans cette obscurité la plus totale que l'on trouve les peintures. Ce sont des animaux qui sont représentés dans un état de fraîcheur si exceptionnel que certains ont d'abord pensé que c'était une supercherie, un canular, que des petits malins s'étaient amusés à faire des peintures. Et
pour les s'amuser voilà. Dans les conditions.
Et alors, bon, les scientifiques sont quand même des scientifiques, sont des gens qui réfléchissent, et ils ont levé le doute quand les géologues ont constaté que ces peintures étaient recouvertes d'une fine couche de calcite transparente qui en démontrait l'ancienneté. C'est-à-dire que, bon, la calcite se forme par le ruissellement de l'eau, et il faut des siècles pour faire une couche de calcite. Donc, ça n'était pas un canular. Alors ici, dans cette grotte, on voit un ours des cavernes peint en noir. Là, des bisons avec 8 pattes pour simuler le mouvement de la course. Alors ça, c'est extraordinaire. Il faisait 8 pattes au bison et dans l'obscurité juste éclairée par une torche, on a l'impression que ces 8 pattes sont en train de bouger.
C'était le moment.
Qui est un principe de cinéma, en fait.
Ouais,
c'est ça qui est extraordinaire. Hein. On voit aussi un couple de lions des cavernes dont la femelle se frotte au flanc du mâle. Des rhinocéros en train de lutter entre eux. Et c'est vraiment, mais on est bluffé quand on voit ça. On voit également des aigles ou encore des insectes comme des mille-pattes ou des papillons. Bref, un échantillon quasi complet de la faune de cette
époque. Mais pas de cavaliers.
Pas de cavaliers, mais des chevaux, Jean-Yves, dont certains sont représentés la bouche ouverte, c'est-à-dire en train de hennir.
Ah, tiens.
Et oui. Et ils ont un chanfrein pratiquement rectiligne, la crinière en brosse et une absence de toupet qui dénote leur aspect.
Un peu le cheval de Przewalski. Alors.
Voilà, l'aspect primitif ou le tarpan, voilà, tout à fait. Ou même le poney fjord, d'une certaine façon. Alors, leurs corps sont représentés longs et massifs. En revanche, les hommes dessinent leurs membres plutôt de façon fine. Il y a une certaine disproportion en quelque sorte entre la masse du cheval et les membres. Presque esquissés. Alors il y a aussi quelques peintures du corps humain. Alors ça, là, Jean-Yves, il va être content. Celle d'une femme dont seules les hanches et les jambes et les hanches sont représentées. Une seconde qui montre un bison en train d'étreindre son sexe. Elle est nue et un bison est en train de lui étreindre le sexe. Voilà. Et enfin, une autre peinture dont la symbolique, alors là, pour le coup, reste énigmatique. Celle d'un personnage associé à un bison muni d'un bras et d'une main. Et alors, on a l'air de voir une sorte de minotaure, en quelque sorte, enfin, qui était cette espèce de monstre mi-homme, mi-taureau, qui était gardé dans le fameux palais du roi Minos, hein, Minos, Minotaure, donc qui était en fait le résultat de l'accouplement entre un homme et une femme, donc cette espèce de taureau, mi-taureau, mi-homme. Et ça, vraiment, ça voudrait dire que certains symboles que nous avons en mémoire, voire que nous utilisons toujours aujourd'hui, viendraient de si loin. Et ça nous plonge dans un vertige extraordinaire. C'est-à-dire que dans cette espèce de mémoire enfouie, on a quand même des sortes de réminiscences. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant, en particulier dans la grotte Chauvet. Alors, pour en savoir plus, donc L'homme premier de Henri de Lomelay chez Odile Jacob, La préhistoire par un collectif dirigé par André Leroy-Gourhan dans la collection Nouvelle Clio, Presse universitaire de France, 3 ouvrages dans la collection La France archéologique éditée par la Maison des Roches, donc 2 ouvrages, pardon, donc La France archéologique sous la direction de Jean-Paul Demoule aux éditions Azan, et cet ouvrage est disponible à la médiathèque de Rodez, et toujours à la médiathèque de Rodez, Préhistoire de France également de Jacques Jaubert aux éditions Clan Confluence. Et enfin, dont je me suis inspiré, La grotte des rêves perdus, un somptueux film donc documentaire de Werner Herzog. Alors, ta leçon, Jean-Yves, pour toi, le cheval, tu me dis que le cheval est ton maître et ton juge.
Tout à fait, mon seul maître et mon seul juge. Parce que il n'y a que lui qui peut retransmettre des choses et les faire passer. Et donc, apprendre à monter à cheval, c'est apprendre à respecter son cheval. Pour bien le respecter, eh ben, il faut bien le connaître. Si on ne le connaît pas bien, on peut pas. Il faut le connaître dans son esprit et le connaître dans son corps. D'où la recherche importante, la quête qu'on doit mener pour pouvoir justement parler et pour pouvoir communiquer avec le cheval.
Pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer avec le cheval, voilà.
Et bien le servir.
Eh bien, le servir, voilà, ça, c'est ton slogan, tes slogans préférés. Alors, très très vite, Jean-Yves, on arrive à la fin de la mission. Le dicton de la semaine, un bon cheval doit avoir beau crin, belle poitrine, beau rein et grosses fesses.
Et doit être inscrit dans un carré. Et les points anobliques, j'ajouterai, moi.
D'accord. Et avec ça, tu es content du cheval que tu as devant toi, là?
Ah ben, tout à fait.
Bon.
Le bon cheval, 4 bons pieds.
Et 4 bons pieds, bien sûr, parce que c'est vrai que dans cette énumération, on parle pas tellement des membres du cheval. Hein. On parle et du pourtant, dessus, et pourtant c'est important.
C'est important. Ouais. Mmh. Il y a la volonté, mais il y a aussi pouvoir exécuter et suivre la volonté.
Voilà. Et une épaule pas trop oblique, qu'est-ce que
si,
tu penses?
Si, une épaule oblique, justement, pour avoir beaucoup plus de souplesse, parce que l'épaule droite, ça secoue.
Ça secoue, oui.
Genre trotteur. Un trotteur, c'est un peu dur à monter.
Oui,
pour les gens
vrai.
Cardiaques qui ont mal au cœur, il vaut mieux un lusitanien ou un barme avec l'épaule oblique que l'on peint un trotteur.
D'accord. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance, une alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles.
Et à la semaine prochaine. Et bravo pour nos chevaux.
Merci Jean-Yves. Ciao, ciao.
Chevaliers, alliés et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en toi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, d'aigle mort à Rodez, en passant par Salmières, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la
couvertera de millions de les bisous, sa vieille au milieu du sel. Patrie de Béranger de l'Andorre, capitale du roi Hercule Rhodes, entrée dans la légende.